VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. En France, le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance confiée à la gendarmerie après l'annonce que le vol MS-804 d'Égyptair reliant Paris au Caire s'était écrasé aujourd'hui en Méditerranée avec 66 personnes à bord. Les forces à la recherche de l'avion ont maintenant repéré les débris de l'appareil. Plus de détails sur la disparition de l'Airbus A320 avec Lionel Gaïma.
Le vol MS-804 a décollé à 23h09, heure de Paris, avec 66 personnes à bord. Le vol MS-804, un Airbus A320, s'est trouvé à 37 000 pieds d'altitude et était entré dans l'espace aérien égyptien quand il a disparu des radars jeudi à 2h45, heure du Caire, a d'abord précisé Égyptair sur son compte Twitter. L'appareil transportait 56 passagers, dont un petit garçon et deux bébés, ainsi que 7 membres d'équipage et 3 officiers de sécurité, a ajouté plus tard la compagnie nationale dans un communiqué. Égyptair a publié une liste énumérant les nationalités de 56 passagers, 30 Égyptiens, 15 Français, un Britannique, un Canadien, un Belge, un Portugais, un Algérien, un Soudanais, un Tchadien, 2 Irakiens, un Saoudien, un Koweïtien. La France n'écarte aucune hypothèse et va coopérer étroitement avec l'Égypte pour en élucider les circonstances, ont assuré jeudi matin les dirigeants français.
En RDC, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle censée avoir lieu à la fin de l'année, est inculpé de recrutement de mercenaires par la justice congolaise. L'ex-gouverneur du Katanga fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrêt. Les explications de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au micro d'Idriss Fall.
Le ministre de la Justice vient de nous informer que le parquet de Lubumbashi vient d'inculper formellement M. Moïse Katumbi pour frais de recrutement de mercenaires et de le placer sous mandat d'arrêt provisoire pour lui permettre de comparaître devant les juges du siège.
Est-ce qu'il va être transféré à Kinshasa ou pas?
Tout dépend des magistrats. Ils sont juges naturels à Lubumbashi. Il y a des juges à Lubumbashi. Ils sont à Kinshasa. Ils viendront à Kinshasa. Nous sommes dans le même pays. Cette question donne l'impression qu'il y a deux pays, Lubumbashi et Kinshasa. Non, il y a Lubumbashi. Je ne sais pas pourquoi, quand on parle de mise à disposition du juge, on parle de transfert à Kinshasa comme si Kinshasa était l'enfant. Il a été mis à la disposition du juge. Et il y a le juge à Lubumbashi comme il y a le juge à Kinshasa.
Est-ce que c'est la suite de l'arrestation de 4 étrangers, dont un Américain, pendant une manif à Lubumbashi?
Tout est parti de là, avec les auditions que M. Katumbi lui-même a dû subir devant les magistrats instructeurs du parquet. La conclusion de cette instruction qui a abouti à l'inculpation pour ce fait-là et à la délivrance d'un mandat d'arrêt provisoire.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC. Cameroun, l'armée camerounaise poursuit sa lutte contre la secte islamiste Boko Haram avec des résultats encourageants. Ces derniers jours, des leaders du groupe terroriste ont été arrêtés, des otages libérés, mais plusieurs soldats camerounais sont également tombés sur le champ de bataille. Le point avec Gibaye Gadama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, au micro de John Lindon.
Aujourd'hui, l'armée camerounaise comprend mieux le fonctionnement de la secte parce qu'elle a arrêté les soufis, elle a arrêté les logisticiens et maintenant elle arrive à capturer les têtes pensantes, les opérationnels. Donc elle maîtrise mieux son adversaire et ça permet à ce qu'elle mène des opérations beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pointues et qui peuvent apporter de bons résultats. Mais je dois dire que la secte avait atteint un certain niveau de déstabilisation qui était élevé aussi. Et que malgré tout ce que l'armée camerounaise fait, ce que l'armée nigériane est également en train de faire, il reste encore beaucoup à faire. Parce que vous avez des zones comme le lac Tchad qui est encore, malheureusement, qui est encore sous contrôle de la secte. Ou en tout cas, où les deux armées n'arrivent pas à faire de bonnes percées comme ailleurs.
Qu'en est-il des groupes d'autodéfense qui, à un moment donné, ont aussi participé à cette lutte contre Boko Haram?
Écoutez, ce succès de l'armée camerounaise n'aurait pas été possible, du moins à ce niveau, si les groupes d'autodéfense ne s'étaient pas eux-mêmes concentrés sur l'objectif. Ce qui fait que les militaires sont plus libres d'opérer parce qu'ils ne sont plus affectés à des tâches de surveillance des entrées de villes, des surveillances des localités, des activités de routine. Donc l'armée peut rester concentrée efficacement sur son objectif et laisser les autres aspects au comité de vigilance. Jusqu'ici, ça se passe très bien. Il y a quelques problèmes d'organisation, de logistique même de ces groupes d'autodéfense. même parfois de rémunération, parfois de petits mouvements d'humeur. Mais comme c'est un phénomène qui est nouveau, ça prendra du temps pour qu'il soit structuré. Mais c'est la combinaison de ces deux facteurs, comité de vigilance armé, c'est cette combinaison-là qui donne ces résultats aujourd'hui.
Guibaï Gadama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, joint par John Lyndon au Cameroun.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, Amina Ali, la première des 219 lycéennes de Chibok, retrouvée saine et sauve plus de 2 ans après leur enlèvement, a été reçue aujourd'hui à Abuja en compagnie de sa mère Binta par le président nigérian Muhammadu Buhari. Elles étaient accompagnées par le gouverneur de l'État de Borno, Kashim Shettima, ainsi que plusieurs hauts responsables gouvernementaux, notamment le conseiller national à la sécurité, le ministre de la Défense et le chef d'État-major des armées. Un rappel des circonstances de la libération de la jeune captive avec Nani Talani.
La lycéenne Amina Ali avait 17 ans lors de son enlèvement. Elle a été retrouvée mardi au cours d'une patrouille de l'armée et de miliciens d'autodéfense dans la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno. Sur une photographie fournie par l'armée, on peut voir une jeune femme hébétée sous un hijab et portant un bébé présenté comme sa fillette de 4 mois. Le mouvement Bring Back Our Girls assure que la jeune fille leur a confié que les autres lycéennes sont toujours captives et qu'au moins 6 d'entre elles sont déjà mortes. En avril 2014, Boko Haram avait enlevé 276 jeunes filles d'une école secondaire de Chibok. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper.
Au Mali, 5 casques bleus tchadiens tués, 3 autres grièvement blessés. Tel est le bilan d'une embuscade contre un convoi de la MINUSMA mercredi dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. La énième attaque terroriste dans cette région qui n'est pas sous contrôle du gouvernement central de Bamako. Ce n'est pas la première agression contre le contingent tchadien qui est le plus mobile dans la région de Kidal. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
5 casques bleus de la MINUSMA ont été tués. 3 autres ont été grièvement blessés lors d'une embuscade au nord d'Agelhok, dans la région de Kidal. L'attaque s'est déroulée alors que les soldats tchadiens escortaient un convoi logistique. Après avoir heurté un engin explosif, le convoi a été la cible de tir. Les soldats du contingent tchadien de la MINUSMA ont perdu la vie lors des échanges avec un nombre indéterminé d'assaillants. Suite à l'attaque, les casques bleus tchadiens ont intensifié les fouilles et les patrouilles toute la nuit. C'est ainsi que 3 suspects ont été capturés et seront remis aux autorités compétentes. La MINUSMA condamne dans les termes les plus forts cette attaque abjecte visant une fois de plus les casques bleus au Mali. Malgré cette attaque, la MINUSMA a renouvelé son engagement aux côtés du Mali pour la stabilisation du pays. A signalé que depuis le début de la guerre de libération des régions nord du Mali, les soldats tchadiens ont enregistré plus de pertes en vies humaines que les militaires maliens ainsi que français. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale presse la communauté internationale à assouplir l'embargo sur les armes pour concrétiser ses provinces à Vienne en Autriche. Cet appel intervient quelques heures après la mort de 32 membres de ses forces dans des combats avec le groupe État islamique. Eric Manirakiza.
Dans son communiqué, Tripoli exhorte la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour accélérer son réarmement. Le gouvernement d'Union s'appuie sur l'engagement pris lundi à Vienne par plusieurs pays pour l'exempter de l'embargo de l'ONU sur les armes afin de faire face à la menace djihadiste. Mercredi, les forces du gouvernement ont lancé l'offensive près d'Abu Ghraib à 130 km à l'ouest de Sirte, fief des djihadistes. 32 membres des forces libyennes ont été tués dans un attentat, la voiture piégée et dans les combats. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Le soutien international reste fondamental, déclare le gouvernement d'Union, qui plaide pour la mise sur pied d'une armée forte capable de lutter contre l'État islamique et les autres groupes extrémistes. De son côté, l'émissaire onusien en Libye appelle à l'unité de toutes les factions derrière le Premier ministre Fayez al-Sarraj.
Et pour terminer, en Afghanistan, un taliban infiltré dans la police a abattu 8 de ses collègues dans le sud du pays. Une attaque de l'intérieur, comme il s'en produit régulièrement au sein des forces de sécurité afghanes. C'était dans la province de Zaboul aujourd'hui. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.